L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous met dans les oreilles les voix du Finistère, des voix souvent expertes et toujours passionnées. C'est le cas pour notre invité. Vous l'avez peut-être croisé, lu ou écouté. Son truc à lui, ce sont les arbres. C'est un peu beaucoup son métier, puisqu'il est gestionnaire des arbres de Brest Métropole. On lui doit aussi des conférences, les ouvrages consacrés aux arbres remarquables de Bretagne, parus chez Locus Solus. Et il vient de publier un nouveau livre, illustré par l'architecte paysagiste Paul Lornay, avec même une belle carte dedans. C'est toujours chez Locus Solus. Le titre, c'est « Brest la verte, cité d'arbres et d'histoire ». Bonjour Michael Gizégou.
Bonjour Véronique, merci pour l'invitation.
Ah ben c'est un plaisir, vraiment. C'est un sujet qu'on aime beaucoup sur Transistor, les arbres. Alors la première question, c'est est-ce qu'il y a toujours eu des arbres à Brest? Enfin, pour ce qu'on en sait, puisque voilà, on ne connaît peut-être pas toute l'histoire de Brest et des arbres de Brest.
Oui, effectivement, ce livre invite à se plonger dans l'histoire de Brest, non pas à travers ses bâtiments, sa grande histoire, mais à travers ses arbres. Car Brest a toujours été une ville arborée. C'est un travail de près de 3 ans d'enquête avec une historienne qui s'appelle Claire Tracou. En 2022, elle sortait une exposition, Brest, une ville fortifiée. Et de cette exposition... J'ai peu vu les fortifications, je vous avoue, mais j'ai surtout vu beaucoup d'arbres dans les paysages de Brest passés.
Et Malgré la fortification, parce qu'on dit souvent que les villes fortifications, par définition, c'était des villes sans arbres.
Et bien justement...
Ah ouais, c'est fou ça.
C'est justement à cause des fortifications que Brest a été une ville très arborée. C'est ce que ce travail a mené à démontrer que l'arbre a joué un rôle essentiel. C'était un art militaire, c'est-à-dire que l'objet des militaires, il y avait des soldats jardiniers, l'objet était de planter des arbres pour différentes raisons. Première, c'était de cacher les fortifications de la vue des ennemis. Le deuxième, c'était de fournir du bois d'œuvre nécessaire.
Pas seulement la forêt du Cranou, alors on en plantait les plus près.
Voilà. Okay. Et puis la troisième, c'était... d'offrir, je dirais, une symbolique, une certaine puissance. Quand on se promenait sur des places d'armes, par exemple, c'était d'avoir un certain prestige et donc les places étaient arborées. C'était également planté pour fixer les fortifications. On avait toujours peur que ça s'écroule.
Oui, parce qu'il y a du relief à Brest,
mine de rien. Donc, pour toutes ces raisons, l'arbre à Brest, et c'est une particularité, l'arbre a été avant tout un art militaire.
Et là, ça, vous remontez à, vous disiez, il y a 300 ans, c'est ça à peu près, non?
Oui, 300 ans, ouais, des lieux. Macorlan, en 1928, évoquait les fortifications de Brest en parlant de fortifications verdoyantes. C'est assez joli, hein, et ça démontre bien le cadre arboré de Brest.
Alors vous n'êtes pas remonté plus avant, enfin je sais pas, bon. Brest Moyen-Âge et tout ça, vous ne savez pas trop là-dessus.
L'étymologie même de Brest, Bégarest, pourrait venir de la pointe du bois. Donc c'est une des hypothèses de l'étymologie même de Brest.
Ah oui, j'ignorais. Bon, alors, c'est simplement, Brest a eu comment ? Dirais-je, parmi les péripéties de son histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, et évidemment des bombardements intensifs. Donc là, ça a changé, j'imagine, le visage arboré de la ville.
Oui, alors, y a plein de choses à dire sur ce sujet.
Bah, allez-y, allez-y. On a
peut-être,
le temps.
Peut-être la première chose, c'est que les photos de l'époque, les illustrations de l'époque, montrent que l'une des premières choses que l'on a fait à Brest, après-guerre, ça a été de replanter des arbres, comme un besoin vital de retrouver un espace arboré ou une raison d'espérer peut-être face à ce chaos.
Les ruines aussi.
ou peut-être pas, simplement un espoir de reconstruction. Et par exemple, le square de la Tour d'Auvergne, alors que c'est le chaos total à côté, une photo nous montre, qui est dans le livre, nous montre que le square de la Tour d'Auvergne a été complètement réhabilité dès 1945, quelques mois après la fin du conflit. Le cours cours d'Ajot, le fameux cours d'Ajot qui offre une des plus belles vues sur la rade de Brest, a été replanté dès 1946.
Ah donc, oui, donc on n'a pas attendu, parce qu'on sait que les arbres, ça met un peu de temps à pousser aussi, c'est peut-être ça. Et quand on a replanté les arbres, j'imagine qu'on a planté différemment de ce qui avait été fait au XVIIe ou au XVIIIe siècle, quoi.
Eh bien oui, c'était l'arbre 2.0, on peut dire, après-guerre. C'est-à-dire, je m'explique, avant-guerre, je vous ai parlé de l'arbre militaire, et il n'y avait qu'une seule essence, ou une essence majoritaire, c'était l'orme. L'orme, une essence qui pousse très bien, qui poussait très bien à cette époque-là dans le Nord Finistère, à Brest particulièrement, et l'on plantait des ormes. Brest était une ville d'ormes.
Et c'était un bois intéressant aussi pour la construction militaire.
Oui, un bois très pour la construction navale, pour faire les affûts de canon. C'était un bois très intéressant.
Donc c'était ça, à Brest on voyait des ormes.
Des ormes,
voilà.
On ne sortait pas de Brest sans voir des ormes, c'était Brest. Et donc l'orme avait probablement une symbolique militaire très forte. Et je pense qu'à l'orée de la reconstruction, on a voulu changer la nature de la ville. Et l'on a fait plutôt place à des arbres qui avaient une symbolique civile, avec par exemple du tilleul, de l'érable ou du cerisier fleur.
Et quand même pas quand même des petites visées, si en se disant ça va servir, je sais pas, du chêne. On ne s'est pas dit ça va servir après pour la construction, non. On ne se disait plus ça.
On a vraiment changé la palette végétale complètement. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas la graphiose, la maladie qui a touché l'orme.
Oui, parce que l'orme voilà. Hein, nous, on en avait un magnifique au fou, il a disparu.
Ouais. Hein mmh. Donc oui, on a complètement changé la palette végétale. Et puis ce qui est assez étonnant, ce qu'on a retrouvé dans les archives, c'est qu'il y a eu un inventaire des arbres détruits lors de la Seconde Guerre mondiale. Cet inventaire a démontré près de 5000 arbres qui étaient présents à Brest, majoritairement des ormes. Et grâce à cet inventaire, à l'époque, la mairie de Brest a réussi à avoir des financements, des dommages de guerre, pour replanter des arbres qui ont été majoritairement replantés entre 1959 et 1972. Près de 20 000 arbres ont été replantés à l'époque.
Et tout avait été détruit, ou est-ce qu'il n'y a pas eu des petits rescapés? Enfin, je pense en termes de bâtiments, il y a la rue de Saint-Malo qui a échappé au bombardement. Est-ce qu'il y a des arbres qui ont échappé au bombardement?
Alors c'est une bonne question. Quels sont les arbres les plus vieux de Brest ou les plus anciens de Brest? On peut se poser la question. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que l'on a retrouvé les plus vieux arbres datent de 300 ans. Et c'est majoritairement des chênes bocagés, des anciens têtards. Vous voyez ce que c'est?
Tout à fait. C'est les arbres qui ont été coupés, recoupés. C'est ça, donc qui ont des drôles de formes.
Voilà, pour des besoins agricoles, ouais. Qui entouraient les champs. Et au détour de la vallée du Spernote, aux abords du Moulin Blanc, on a retrouvé quelques chênes qui ont plus de 3 siècles.
Oui, parce que en fait, c'est vrai qu'on parle de Brest depuis le début de l'émission, mais en fait, on n'a pas précisé le périmètre. Est-ce que c'est Brest même, comme on dit, ou est-ce que c'est déjà vous avez pris en compte dans votre livre, je ne sais pas, Lambézélec, enfin les villages alentours qui n'étaient pas encore Brest?
Oui, c'est le Brest actuel, c'est le territoire de Brest actuel. Et puis, dans les arbres bocagers, je voulais également citer la Star, puisque nous avons à Brest un arbre qui est classé arbre remarquable de France par l'association Arbre. C'est le chêne de la vallée du Restic, qui a reçu le label en 2023, si je ne me trompe pas, arbre remarquable de France. C'est une très belle trogne qui porte le surnom de l'arbre aux 1000 visages.
Trogne, c'est comme tétard, un peu, c'est pareil. C'est des arbres qui ont été taillés pour... Oh, c'était quoi, pour récupérer le bois, le petit bois, c'est
oui,
ça?
Oui.
Et ils avaient un énorme tronc et de toutes petites branches, quoi, en gros.
C'est ça, on taillait au-dessus de la dent du bétail, on taillait les branches, et donc on pouvait récolter du bois au-dessus de la dent du bétail. Le tronc était massif, effectivement, et au-dessus, c'était du bois qu'on récoltait. On récolte toujours du bois, hein, c'est des pratiques agricoles.
Donc, deux chênes qui témoignent du passé rural de la ville, hein, oui, évidemment. Oui.
Et on a retrouvé des vues assez intéressantes, puisque donc, vous savez que Brest a été fortifié très rapidement en quelques décennies. Et sur ces vues de la fortification, on a retrouvé du bocage, parce que le bocage date du XVIe siècle, et on a retrouvé du bocage qui était coincé, qui était devenu à l'intérieur de la ville, en intramuros. Donc,
ah ouais, qui était devenu quoi? Une haie, parc à la rigueur?
Un parc, sans doute, ouais. À l'époque, ouais.
Et il n'y a pas des parcs entiers qui ont été... ont échappé au bombardement, ou des petites zones boisées qui auraient échappé au bombardement, sinon
On ne peut pas dire ça. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que les arbres que l'on a aujourd'hui prennent en grande partie racine dans l'histoire de Brest. Par exemple, le cours d'Ajau. On doit sa construction à Dajot, qui était responsable des fortifications de l'ouest de la France. Et cette place boisée de Brest a perduré depuis 1759 jusqu'à maintenant. C'est toujours boisé. Alors, il y a eu plusieurs générations d'arbres. D'ailleurs, une anecdote intéressante, c'est que lors... Stiers, lors à qui l'on doit l'éclairage public à Brest, qui l'on doit...
les lampadaires.
Les lampadaires, voilà. Du coup, a implanté des lampadaires sur le cours d'Ajau, vers la fin du 19e siècle. Et ces lampadaires étaient au gaz. Et ces lampadaires ont complètement brûlé une grande partie des arbres du cours d'Ajau. Et Stiers les a remplacés à ses frais.
Et les arbres, c'était des ormes à l'époque, ceux qui ont brûlé.
Oui, c'était des ormes majoritairement qui ont été replantés après-guerre en platane.
Alors, donc, les 20 000 arbres qu'on a plantés à la reconstruction, on a mis le temps, mais est-ce qu'ils ont été plantés de manière différente? Il y a eu des récurrences, vous disiez, le cours d'Ajau, mais est-ce qu'on a créé des nouveaux espaces boisés, enfin, une façon différente de planter en plus de diversifier les essences?
Oui, on doit notamment toutes ces plantations sous une mandature, c'est la mandature du maire, monsieur Lombard, on doit ces plantations de 20 000 arbres et la création de plusieurs dizaines d'hectares de parcs au sein de Brest. C'est sous cette mandature que la grande majorité des arbres a été plantée.
Alors par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu comme parc créé, qui existe toujours, hein ?
Toujours... par exemple, le conservatoire botanique a été créé à cette époque-là. Hein. C'était, c'est un petit peu plus après, mais c'était dans les années 70.
Oui, donc c'est récent. Hein, parce que c'est vrai que souvent, on pourrait se dire la botanique, c'était une passion du 19e, mais là, non.
Oui, on va en parler peut-être de la botanique.
Oui, tout à fait.
C'est également un autre sujet important. Par exemple, des petits squares intramuros, comme le Poulard Bachette à Saint-Marc. Ça m'échappe.
Ouais. J'ai pas. Bon, non, mais c'est bien déjà. Ouais. Et les arbres, donc, vous disiez, on a choisi des essences un peu plus variées. Est-ce qu'il y a là des arbres remarquables actuellement qui datent de la reconstruction, qui sont déjà des arbres remarquables?
Des arbres qui ont 50 à 60 ans, je pense qu'on peut pas dire qu'ils sont remarquables, mais en tout cas, ils marquent le paysage de Brest, ça, c'est sûr.
Alors, dans l'histoire des arbres de Brest, il y a quelques spécificités. J'ai l'impression que, justement, l'aspect arbre exotique, c'est vraiment spécifique à la ville, ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Enfin, il y a le conservatoire, mais il n'y a pas que ça. Hein.
Oui. Alors, effectivement, ce travail-là a montré des spécificités par rapport à d'autres métropoles, notamment l'arbre militaire. Ça se retrouve pas beaucoup dans d'autres métropoles ou d'autres villes. Et effectivement, Brest a été depuis très longtemps un port d'acclimatation. On retrouve des arrêtés royaux indiquant que Brest donc était un lieu où l'on devait ramener des plantes venues de lointaines expéditions. Et de nombreux arbres ont été introduits pour la première fois sur notre continent par le port de Brest. Par exemple, l'araucaria du Chili, le désespoir des singes que vous voyez peut-être en image. Vous imaginez l'arbre, un conifère.
Oui, c'est vraiment très étrange, les araucarias. Ça fait très préhistorique, même paléontologique comme arbre.
Et ben, on doit son introduction à un navigateur qui s'appelait De Kersauzon, qui en 1823 a fait débarquer...
Ancêtre d'eux, j'imagine.
Oui, c'est la même famille. A débarqué donc, les premières graines d'araucaria sur notre continent. Le tulipier de Virginie également. Le jardin le plus connu, c'était le jardin de l'hôpital des armées, à qui un botaniste, le jardinier Antoine Laurent, a créé durant plusieurs décennies l'un des plus beaux jardins de la métropole, qui était considéré comme le plus beau jardin de la métropole, avec plus de 3000 espèces d'arbres différentes, tel point que l'on considère, c'est pas de moi l'expression, mais c'est d'une conservatrice du service historique de la Défense qui considérait que ce jardin-là était le paradis perdu brestois.
Et le cèdre de l'Atlas de l'hôpital Morvan, il est vieux aussi, j'imagine.
Enfin... Non, il date des années 60.
Ah ouais.
Planté dans les années 60.
Donc comme quoi, il y a des arbres récents qui sont assez...
Par contre, Oui. Marque le paysage.
Ah oui, oui, c'est ça, voilà. Et le jardin botanique, donc j'imagine, le conservatoire, quand il a été créé, a implanté des arbres. Enfin, il y a des arbres qui ont bien fonctionné aussi.
Oui, en fait, je pense que c'est une longue histoire. En fait, Brest rime avec acclimatation, puisqu'on a eu cette histoire-là d'acclimatation des arbres à travers les siècles, donc depuis le XVIIe siècle, et ça se réinvente au fil des générations. Le jardin du Conservatoire botanique, donc créé dans les années 70 par M. Le Souef, qui est là maintenant un jardin très connu, mais ça continue à perdurer, puisque je ne sais pas si vous connaissez le jardin extraordinaire.
Si, voilà. Alors ça, celui-là, c'est un jardin d'une association, c'est ça ? C'est des particuliers
Oui.
Et alors, il date de quand ? Il est assez récent.
Il a été créé dans les années 2021-22 par des passionnés de botanique, passionnés d'acclimatation. Donc, c'est présidé par, il mériterait peut-être d'être invité ici, par Jacques Philippot. Et sur un coteau exposé sud-est.
Au-dessus du port de commerce, hein, voilà. Très, très raide hein, quand même.
Mais... Oui, oui. Mmh. C'est un jardin vraiment extraordinaire au sens strict, parce qu'il y a des plantes qui poussent en Afrique du Nord, en Amérique du Sud, à Taïwan.
Il est bien exposé sud en fait en même temps, hein. C'est ça hein, ce coteau.
Oui.
Et puis sinon, il y a le climat océanique, j'imagine, qui facilite tout ça.
J'ai sincèrement, j'ai pas mal voyagé en France et à Brest, il y a ce truc avec la botanique qu'on ne retrouve pas ailleurs, cette passion populaire des plantes venues d'ailleurs que l'on se prête à imaginer dans nos jardins, des plantes, des protéacées, des eucalyptus, des fleurs que l'on ne voit pas ailleurs. Et c'est littéralement une passion que l'on retrouve par exemple dans les fêtes des plantes ou qui réunissent plusieurs milliers de personnes.
Mmh. Puis après, il y a des plantes qui deviennent exotiques, envahissantes, comme l'herbe de la pampa, quoi.
Voilà.
C'est pas toujours une bonne idée. Pour les arbres, ça ne s'est pas produit. Il n'y a pas des arbres qui sont devenus envahissants.
Non, pas à Brest.
Et dans les choix, donc, pourquoi est-ce qu'on plante un arbre en ville ? Il y a un aspect, on vous l'avait évoqué rapidement, il y a un aspect symbolique. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur les choix qui ont été faits à Brest ? Quels sont les arbres qui ont été faits, vraiment, qui ont été plantés pour des raisons symboliques ?
Je pense que ce travail démontre, à travers cet exemple hein, de Brest, mais du coup amène à quelque chose de plus global, c'est qu'on ne peut pas vivre sans les arbres. C'est quelque chose de vital pour nous. Une ville sans arbres, c'est une ville invivable, notamment par rapport au changement climatique, à la perte de biodiversité, c'est vital, l'arbre est vital. Effectivement, on retrouve certaines plantations symboliques à Brest. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez que durant la Révolution, il y a eu des arbres de la liberté qui ont été plantés à Brest.
Ben partout, en fait, je crois. En France, il y avait des arbres de la liberté. Ouais.
Ouais, près de 60 000 arbres ont été plantés en France. Et à Brest n'a pas échappé. Il y a eu plusieurs arbres de la liberté qui ont été plantés. Alors, il y avait trois essences qui symbolisaient le renouveau démocratique. Le chêne, la force, la longévité du nouveau régime, le tilleul, le vivre ensemble, le partager, le prendre soin, et autrement, l'arbre du peuple, le populus, le peuplier.
Et là, il n'en reste pas des arbres de la liberté de Brest, non?
Parce qu'après, lors de la restauration, ils ont été systématiquement abattus à quelques exceptions près.
Mais après, il y a eu des arbres de la paix. Enfin, c'est ce qu'on fait,
tout
voilà,
fait,
maintenant, ça
oui,
a remplacé
oui, oui.
Ça, on va dire.
On a planté régulièrement des arbres symboliquement. Par exemple, il y a la ville de Glasgow, a été une ville bienfaitrice après la reconstruction. Et Lord Glasgow est venu planter un arbre à la reconstruction. On a retrouvé une magnifique image en noir et blanc avec le maire de Brest qui plante un arbre ensemble.
Et il existe toujours cet arbre, non ? C'est pareil, il a...
Là, je ne sais pas.
Vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas connaître tous les arbres de Brest. Il y a aussi alors, l'arbre... Là, par contre, je trouvais qu'il y en avait très peu. Alors, c'est très à la mode maintenant de planter en ville des arbres comestibles, des arbres fruitiers. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un noyer, c'est ça ?
Eh bien, ce qu'on peut dire sur ce sujet, il y a une anecdote assez étonnante que l'on a retrouvée grâce à Jacques Philippot, notamment donc du président des Jardins Extraordinaires, qui a retrouvé un article de la Société d'Horticulture de France qui date de 1860. Qui indique les endroits où l'on cultivait des agrumes en France. Donc c'est précisé Nice par exemple, Menton, et il y a une petite ligne, Brest sur les coteaux sud-est.
Eh ouais.
En 1860, on cultivait des agrumes à Brest en extérieur.
Eh ben ça revient d'ailleurs, il paraît.
Voilà.
On se remet à cultiver des agrumes chez nous. En fait, il y a aussi une chose qui m'a surprise. Vous parliez de l'arbre essentiel pour notre... pour notre santé, enfin pour la biodiversité. Mais justement, j'étais étonnée que dès le 19e, le mouvement hygiéniste prennent en compte l'arbre, non pas comme, comme une pollution, parce que le mouvement hygiéniste, c'était quand même, par exemple, enlever tous les végétaux des cimetières. Enfin, ils n'étaient pas toujours pro-végétaux, les hygiénistes, mais pour l'arbre, si.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'ils percevaient des bienfaits de l'arbre ?
Et on peut citer un des mouvements de plantation les plus importants, c'est à Paris, sous le réaménagement des quartiers sous le préfet Haussmann. Haussmann est accompagné d'un bras droit qui s'appelait Luc Alphand. Et Luc Alphand a fait planter près de 100 000 arbres à Paris, dans tous les nouveaux quartiers. Et l'objet était vraiment de purifier l'air vicié des villes. C'était les termes qu'ils employaient à l'époque.
Ce qui est d'ailleurs un peu vrai. Enfin, ça, l'arbre, objectivement, filtre certaines particules, je crois, c'est ça
Mais, et en fait, ce qui est intéressant à travers ce travail, je trouve, c'est que on replante les arbres pour des mêmes raisons, bien souvent pour des raisons semblables, mais l'on réinvente le vocabulaire. On plante plus maintenant des arbres pour les régions d'hygiène, on plante pour le bien-être, pour notre santé, mais on ne va pas parler du même vocabulaire qu'à la fin du 19e siècle.
Mais l'idée est un peu la même quand même.
Tout à fait, ouais.
Et alors vous qui vous occupez des arbres de Brest, vous êtes bien placé pour nous expliquer quand même qu'est-ce qui est difficile pour un arbre en ville en général.
Si vous mettez à penser comme un arbre, vous comprendrez que vivre avec un sol ingrat, peu de matière organique au sol, des pollutions liées aux véhicules ou aux autres, à l'activité humaine, eh ben c'est pas facile pour un arbre de pousser. On ne peut pas planter n'importe quelle essence en ville.
Et
la durée de vie des arbres en ville est également très courte.
Ah oui, c'est combien, maximum ?
Alors, c'est une à deux générations maximum d'hommes, alors que en dehors de ça, un arbre peut vivre. Certains arbres remarquables de Bretagne nous ont démontré qu'un arbre peut être quasiment immortel.
Et oui. Et en plus, comme il y a quand même une cohabitation, hein, n'est-ce pas, entre humains et arbres, vous êtes obligé un peu de les tailler quand même parfois, c'est ça qu'est-ce que vous devez faire contre votre gré parfois, Michael Zézégou?
Non, mais effectivement, l'arbre en ville nécessite d'être taillé pour cohabiter avec nos activités, le passage de camions, les bâtiments, les réseaux électriques ou autres réseaux. Donc, ça nécessite d'être taillé, oui.
Et vous ne taillez pas, est-ce qu'il y a toujours ces tailles esthétiques aussi? Ça existe toujours, ça? On taillait, je sais pas, les platanes, on les taillait tous en rectangle, ça.
Oui, ça fait partie de l'histoire de Brest. On taillait les arbres parfois comme ça, on les mettait dans des volumes très stricts et ça continue à perdurer. Le courdageau, par exemple, est taillé actuellement, toujours. On appelle ça en tête de chat.
Ah oui, en tête de chat.
En tête de chat, c'est un peu comme des trognes, si vous voulez, mais des trognes de ville, dans le sens que vous avez des gros bourrelets qui se forment, qui ressemblent à des têtes de chat, et dans lesquels on vient couper les branches tous les 3 ans, par exemple.
Et malgré tout, qu'est-ce que vous, en tant que professionnel de la gestion des arbres en ville, qu'est-ce que vous avez vu évoluer ces dernières années sur la façon dont on traite l'arbre en ville ?
Je pense que l'arbre participe davantage, la société, les gens qui habitent en ville ont vraiment besoin d'arbres. C'est un besoin que l'on ressent. Par exemple, dans les cours d'école, on ne pourrait plus imaginer une cour d'école sans arbres. Et il y a plein de programmes de replantation d'arbres à Châteaulin, par exemple. Ils sont en train de réaménager une cour d'école. Donc c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs, ce besoin de nature, ce besoin d'arbres.
Et vous remarquez que les consignes qu'on vous donne, entre guillemets, sur la gestion des arbres ont changé ?
Oui, l'arbre était plutôt considéré comme un mobilier urbain, on va dire, comme par le passé, sans doute, dans les années 80, 70. Aujourd'hui, je pense qu'on prend davantage en compte l'arbre. Ouais, tout à fait.
Et la tempête Ciaran de novembre 2023. Oui, 23 déjà. Quel a été le bilan de cette tempête à Brest, hein, pour les arbres de Brest ?
Eh bien, il y a deux manières de voir les choses, mais ma manière, c'est de voir que les arbres ont plutôt bien résisté. Vous imaginez, près de 190 km/h, et finalement, on a perdu quelques 1000 à 1500 arbres, mais par rapport au nombre d'arbres présents à Brest, ils ont plutôt assez bien résisté.
Il en reste toujours 20 000 ? Non ? Plus ?
J'espère qu'on en replantera plus.
Ouais. Vous ne les avez pas comptés ? Vous ne savez pas combien il y a d'arbres actuellement à Brest ?
Il y a plus de 20 000 arbres.
Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé, qui va changer dans la politique de l'arbre après Kiaran ou pas ?
Oui, il y a un plan arbre qui est en cours en ce moment sur la métropole de Brest. L'idée, c'est de replanter des arbres, notamment aux abords de la seconde ligne de tram.
Et est-ce qu'on change les essences ou c'est quoi les essences qui sont choisies ?
C'est une bonne question. Le choix des essences fait toujours débat aujourd'hui. On n'est pas forcément toujours d'accord sur le choix des essences. Certains veulent plus de naturalité, d'autres veulent retrouver plutôt des alignements stricts, comme c'était par le passé, à la mode brestoise, c'est-à-dire à la mode militaire. Voilà, donc les débats sont riches.
Et vous alors, est-ce que je peux vous demander, je ne sais pas, un ou deux arbres remarquables de Brest que vous préférez, pourquoi ?
J'aime énormément le chêne aux mille visages de la vallée du Restic, qui est classé arbre remarquable de France. Dans le livre, il y a une magnifique photo où on voit la propriétaire de l'arbre qui reçoit le label. Elle s'appelle Janine Castrec.
Ah oui, je l'ai vu.
J'aime énormément ce chêne.
Ah oui, en effet, c'est vrai qu'il est tout noueux. On voit bien qu'il a vécu. Il est vieux, hein ?
Oui. C'est peut-être le monument végétal le plus vieux de Brest.
Eh bien, Michael Gézégou, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre, ça c'est Brest la Verte, cité d'arbres et d'histoire, dont vous êtes l'auteur avec Paul Lornet aux illustrations, et c'est paru chez Locus Solus. Merci.
Merci.